On va continuer notre septième leçon sur la souveraineté de Dieu. On va regarder aujourd'hui la souveraineté du Dieu trinitaire dans le salut. C'est important de saisir que qu'est-ce qui s'est passé sur la terre lorsque Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre pour accomplir l'œuvre de rédemption, de comprendre que toutes ces choses-là, c'était des choses qui avaient été prises en décision dans le conseil de Dieu. Donc, entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, je pense qu'elle devrait durer 2 dimanches parce que c'est assez long. Alors, ce qu'on va regarder, je vais vous parler un petit peu de comment on va le voir. Aujourd'hui, on va voir la souveraineté du Dieu trinitaire dans le salut. Donc, de façon générale, qu'il y a eu une entente dans l'éternité, entre les 3 personnes de la Trinité, pour amener le salut sur la terre aux hommes qui étaient perdus. Après ça, on va regarder la souveraineté de Dieu le Père dans cette même œuvre-là. Alors, dans la grande œuvre, chaque personne de la Trinité a décrété, décidé, accepté de jouer un rôle qui est différent d'une personne à l'autre. Alors, on va regarder la semaine prochaine. Peut-être aujourd'hui, la souveraineté de Dieu le Père dans le salut. L'autre, après, on va regarder la souveraineté de Dieu le Fils dans le salut. Et ensuite, on va terminer par la souveraineté de Dieu le Saint-Esprit dans le salut. C'est très important qu'on saisisse que tout ce qui s'est passé sur la terre en termes de salut, ça a été d'abord décrété au ciel entre les 3 personnes, une entente divine, ce qui rend le salut si solide. Alors, quand avant de commencer à étudier le salut comme tel, avec les différents points, on va faire ça et après on va commencer à étudier le salut comme tel, la souveraineté, plus en détail, parce que là on va voir comme la vue d'ensemble. Alors, si on regarde dans l'ensemble, on va demander au Seigneur d'abord de bénir notre étude, notre Dieu. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu qui nous a accordé la vie éternelle dès l'éternité. Et Seigneur, avant même qu'on vienne au monde, tu nous connaissais, tu avais décidé de nous placer en Jésus-Christ, afin que lorsque Christ viendrait sur la terre, nous puissions recevoir les bénéfices de son œuvre de rédemption sur la croix et sur la terre. On veut te rendre grâce, notre Dieu, de tout cela, et on te prie ce matin que par ton Saint-Esprit, tu éclaires nos intelligences, tu éclaires tous nos êtres, afin qu'on comprenne davantage la solidité de notre salut, de ce qui a été décrété, ce qui a été entendu entre les 3 personnes de la Trinité dans l'éternité, afin qu'on puisse bénéficier de l'œuvre du salut. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, juste pour résumer un petit peu ce qu'on avait fait depuis le début dans le premier sermon, on avait défini la souveraineté de Dieu, on avait regardé les raisons pour lesquelles Dieu a le droit de régner et la nature de son pouvoir, et on avait vu qu'il ne rendait de compte à personne. Dans le deuxième sermon, on avait vu l'idée que le Seigneur règne sur la création, sur les créatures inanimées, sur les éléments, sur les créatures animées, règne végétal, règne animal, règne minéral. Dans le troisième et quatrième sermon, on avait étudié le fait que Dieu règne sur les anges bons et dans la quatrième leçon, on avait vu qu'il règne sur les anges mauvais. Et dans le cinquième, on s'était émerveillé par le fait que le Seigneur règne souverainement sur les hommes de façon individuelle et de façon collective, donc sur les gouvernements. Et on avait vu dans notre sixième leçon que Dieu lui-même affirme la prérogative de régner. Il l'affirme, on avait vu ça dans les détails. Et aujourd'hui, on avait regardé à peu près la souveraineté de Dieu, à peu près sur tous les domaines. Il restait le salut, et c'est ce qu'on est en train de faire, aujourd'hui. La souveraineté du Dieu trinitaire. Donc, c'est une entente divine qui a été prise dans l'éternité concernant la façon dont le salut s'accomplirait sur la terre et qui en serait bénéficiaire. Alors, on va regarder ça un petit peu en détail. Alors, le Dieu trinitaire est souverain dans le salut. Avant même qu'Adam et Ève eurent chuté dans le péché, le Seigneur, il l'avait prévu, cette chute-là, et les 3 personnes de la Trinité avaient souverainement décidé de concevoir un plan pour le salut de ses élus. Il avait décidé aussi comment il réaliserait cette chose-là, par qui, par quel personnage, par Jésus-Christ. Et il avait décidé aussi à qui serait accordé le bénéfice du salut. Toutes ces choses-là, c'est des décisions divines qui s'accomplissent, bien entendu, dans l'espace, dans les différents pays de la Terre et dans le temps, à partir du début de la création jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, toutes ces choses-là, les rôles que les trois personnes de la Trinité devraient jouer, donc le rôle de Dieu le Père, c'est l'élection. Le rôle de Dieu le Fils, c'est la rédemption. Le rôle de Dieu le Saint-Esprit, c'est la régénération et la sanctification. Si on ne rentre pas dans les détails, mais on va rentrer un peu plus tard dans les détails de tout cela. Alors, le rôle que chacun se devait jouer était établi dans le conseil éternel de Dieu. Dans l'éternité. Alors, si on regarde par exemple dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, versets 37 à 40, on voit que le Seigneur lui-même, lorsqu'il est venu, il dit qu'il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Donc, avant qu'il vienne, il y avait déjà des décisions qui avaient été prises, et il dit lui-même qu'il est venu pour accomplir ce que Dieu avait décidé d'avance. Alors il dit, tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai point dehors. Parce que je suis descendu du ciel pour faire non point ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. Ça, c'est beau. Il dit que je ne perds rien de tout ce que le Père m'a donné. Alors, si Dieu de toute éternité vous a choisi pour recevoir le salut, vous êtes certain, à cause de l'œuvre de Christ, que vous allez garder toute votre vie. Et dans le verset 40, Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le relèverai au dernier jour. Alors, quelque part, Christ lui-même raconte, dit, affirme que les décisions concernant le salut qu'il était venu accomplir sur cette terre étaient une décision divine. On a aussi, quand on parle, non seulement il a décidé qui était pour venir dans les trois personnes, c'était le Fils, mais il a décidé aussi les moyens, comment c'était pour se faire tout cela. Est-ce que la crucifixion, ça a été une décision des hommes, ou si ça a été écrit, ou si c'était un décret divin? C'était un décret divin, parce qu'il y a plusieurs versets qui nous racontent que la façon dont le salut devait se réaliser, c'était dans les détails dans l'Ancien Testament, là. Et Christ, lorsqu'il est venu, il a accompli cette chose-là. Alors, quand on regarde, par exemple, dans Acte 2, les versets 22 à 24, on sait que dans le contexte, c'est Pierre qui, lorsque est arrivée la Pentecôte, donc la descente du Saint-Esprit sur les croyants, Pierre avait adressé un message aux Juifs de l'époque. Voici ce qu'il leur disait. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, homme autorisé de Dieu auprès de vous par les actes de puissance et les miracles et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme aussi vous le savez vous-même. Écoutez bien le verset 23. Ce Jésus, livré par le conseil déterminé et par la préconnaissance de Dieu, vous l'avez pris et vous l'avez fait mourir, l'ayant cloué par des mains iniques. Dieu l'a relevé, ayant mis un terme aux douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Souvent, on va passer rapidement sur le verset 23. Mais il faut s'arrêter à réfléchir à ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ce Jésus, livré par le conseil déterminé. Autrement dit, il y avait eu une entente dans le ciel entre les trois personnes de la Trinité. Dieu disait, c'est le Fils qui va y aller. Le Fils acceptait de le faire volontairement. L'Esprit avait aussi le rôle de régénérer cette personne-là quelque part dans sa vie. Par le conseil déterminé. Donc, c'est un conseil, c'est une entente entre des personnes qui décident des choses concernant l'avenir de certaines personnes. Et par la préconnaissance de Dieu. Autrement dit, il n'y a rien qui s'est déroulé sur la terre en termes de la vie de Jésus-Christ, y compris sa passion, qu'on appelle la croix et tout cela, avait été déterminée par Dieu lui-même, que ce serait de cette façon-là que ça arriverait. Sans, on dirait, quand on regarde ça, on se rapportait à Dieu, « Ouais, mais si c'est Dieu qui a décidé, l'homme est-tu responsable d'avoir fait le mal de ça? » Ben oui, parce que c'est ça qui est difficile à saisir des fois dans les Écritures, parce que Dieu nous dit que c'est lui qui a tout décrété, et quelque part, quand les hommes font quelque chose de mal, ben on est porté à penser, ben c'est lui qui l'a décrété, les hommes ne sont pas responsables, mais c'est pas ça que les Écritures enseignent. Enseignent que l'homme, quand il fait quelque chose de mal, les gens, quand ils ont crucifié Jésus-Christ, faisaient quelque chose d'infiniment mal. Mais Dieu a permis que ça se fasse de cette façon-là parce que c'était par ce moyen-là qu'il a pu juger nos péchés dans la personne de Christ lorsqu'il était sur la croix. En tout cas, on ne rentrera pas dans les détails de ça ce matin, mais c'est juste de comprendre que ce n'est pas des choses qui sont arrivées par hasard. Il est venu, puis là, les Juifs se sont énervés. Tout était dans le plan de Dieu. Et ça faisait partie de la manière dont les chrétiens se devraient d'être sauvés. On revient aussi, on va aller dans Acte 3. On sait qu'à un moment donné, Pierre a rencontré un boiteux. Et ce boiteux-là, à un moment donné, il l'a guéri. Puis apparemment, ça dit dans les Écritures qu'il s'est mis à sauter comme... Il s'est mis à sauter. Un boiteux qui saute. Là. Alors, les Juifs étaient surpris de voir ça, bien entendu. Et après que la chose est arrivée, Pierre a témoigné, Pierre a donné un sermon aux Juifs de l'époque. Voici ce qu'il leur a dit. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. » Il fait référence à ce qui s'est passé à Jérusalem, la crucifixion et tout ça. Il dit « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance aussi bien que vos magistrats. » Verset 18. « Mais ce que Dieu avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que le Seigneur devrait souffrir, il l'a accompli de cette manière. » Si vous regardez dans l'ensemble des Écritures les passages où il parle que Christ souffrirait, dans mémoire comme ça, n'en savez-vous quelques-uns? Ésaïe 53, le psaume 22 et bien d'autres endroits là. Alors, il y a des affaires qui avaient été dites dans l'Ancien Testament par les prophètes concernant un aspect particulier de l'œuvre de Jésus-Christ dans la rédemption. Alors, il dit, « Mais ce que Dieu avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir, il l'a accompli de cette manière. » Après ça, si on va dans Actes 4, versets 27 et 28, on a l'arrestation de Pierre et de Jean qui commençaient à vouloir répandre l'Évangile. Et à quelque part, les Juifs étaient jaloux, ils l'ont arrêté, ils l'ont emprisonné. Voici ce qui menait ce que Pierre et Jean, Pierre va leur dire dans Actes 4, 27-28. Verset 27. « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont vraiment assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël pour faire les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé de voir arriver. » Spécial, hein? Les circonstances de la crucifixion de Jésus-Christ et de tous les déroulements de sa vie avaient été décidées en conseil divin avant même que ça arrive. Quelque part, c'est... Alors, il dit que les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminées, autrement dit, décrétées, choisies les circonstances. Et bien entendu, quand Dieu décrète et choisit les circonstances, dans le temps et dans l'espace, ça va s'accomplir, ça va se dérouler, comme on dit. On a aussi dans Actes 13, versets 26 à 30, là ici on a dans le contexte Paul et Barnabas, et il y avait un nommé Élimas qui les suivait et qui cherchait à détourner de la foi le proconsul. Et on sait que Paul, à un moment donné, s'est retourné de bord puis il a dit « serviteur de Satan », en tout cas, il le remet à sa place. Hein. Dans Actes 13, 26 à 30, voici ce qu'il leur dit. « Homme frère, fils de la race d'Abraham et de ceux d'entre vous qui craignent Dieu, c'est à vous que la parole de ce salut a été envoyée. car ceux qui habitent à Jérusalem et leurs magistrats, l'ayant méconnu, ainsi que les voix des prophètes, lesquels se lisent chaque jour de sabbat, les ont accomplis en le jugeant. Et, ne trouvant aucune cause de mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir. Et, après avoir achevé toutes les choses qui sont écrites de lui, voyez-vous, il est en train de faire référence à dire que ce qui se passe, ce n'est pas un hasard, c'est le déroulement de ce que les prophètes avaient annoncé et qui était écrit. Ils le descendirent du bois et le placèrent dans un sépulcre, mais Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Non seulement on voit par ces versets-là que Dieu envoie le moyen de salut qui est son Fils, mais aussi il décrète les moyens, les circonstances, comment ça devait se faire. Donc, autrement dit, Dieu ordonne les moyens aussi bien que la fin. Ce que je veux dire, c'est qu'il dit comment ça va se passer, mais dans quel but? Le but de la vie éternelle de ses élus. Et tout ça se fait sans violer la liberté et la responsabilité humaine. Ça, c'est un peu difficile à saisir. Quand on commence à rentrer dans la doctrine de la souveraineté de Dieu, des décrets et de la providence, tout ça, on sait que c'est Dieu qui a déterminé toute chose. Puis les hommes participent des fois au mal, mais Dieu n'est pas responsable d'aucun acte que l'être humain a pu faire de mal. Mais c'est quand même compris dans le plan de Dieu. Comme le fait que les hommes crucifieraient Christ, c'était compris dans le plan de Dieu. Les hommes faisaient du mal, mais Dieu se servait du mal que les hommes faisaient dans le but de réaliser son plan de salut. C'est assez extraordinaire. Dans Ésaïe, au chapitre 49, les versets 5 et 6, on a une prophétie sur la personne de Christ. Ça dit « Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre, pour être son esclave, pour faire retourner à lui, Jacob, et pour qu'Israël soit rassemblé vers lui, et je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. » Et dans le verset 6, ça dit « Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon esclave pour relever les tribus de Jacob et pour ramener ceux d'Israël qui ont été gardés. Mais je t'ai donné, il parle de Christ, il dit, mais je t'ai donné pour lumière aux nations. Les Juifs auraient dû savoir que le salut s'étendrait au-delà de la nation juive. Parce que c'était écrit. Mais ils étaient tellement sûrs entre eux que le salut c'était juste pour les Juifs qu'à quelque part ils ne comprenaient pas les passages. Ils ne comprenaient pas, ben non, ils fermaient les yeux, ben non, ils étaient aveuglés, je ne sais pas là. Mais ça dit, « Mais je t'ai donné pour lumière aux nations, afin que tu sois mon salut jusqu'au bout de la terre. » On est au bout de la terre, nous, par rapport à Israël. On est vraiment au bout de la terre. Alors, il nous a apporté son salut, qui est arrivé d'abord à Jérusalem et dans la Judée, mais la Galilée, et ça s'est... De là, ça s'est répandu tout partout en Europe, en Asie, en Amérique, un peu partout. On a Ésaïe 53 aussi, qui nous dit que Jésus, lorsqu'il viendrait sur terre, souffrirait. Alors, on a Ésaïe 53, les versets 10 à 12. Écoutez bien les paroles que le Seigneur dit. « Et il a plu à l'Éternel de l'écraser. » Il parle de son Fils. Il a plu à l'Éternel, Dieu le Père, d'écraser son Fils. C'est ça que ça dit dans le texte. Il l'a mis dans la souffrance. Quand son âme aura fourni le sacrifice de culpabilité, il verra une postérité. Autrement dit, après que Jésus ait accepté de subir le châtiment qui aurait dû être le nôtre, à notre place, ça dit, il verra une postérité. C'est nous la postérité. Il verra une postérité parce que, par le Saint-Esprit, des gens viendraient à croire en l'œuvre de Jésus-Christ. Il verra une postérité, il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra le fruit du tourment de son âme et il en sera rassasié. Par sa connaissance, le juste, mon esclave, justifiera beaucoup de gens et lui-même se chargera de leurs iniquités. Christ, il s'est chargé. Pas de ses iniquités, parce qu'il n'a jamais fait. Il était parfait. Il a vécu une vie parfaite, une vie parfaitement sainte. Il s'est chargé et a accepté volontairement de mettre sur lui les péchés que nous, on a commis, de manière à ce que le Père puisse les juger sur lui plutôt que sur nous. C'est assez extraordinaire. Verset 12, « C'est pourquoi je lui donnerai sa portion parmi les grands, et il prendra parmi les puissants sa portion du butin. En retour de ce qu'il a répandu son âme dans la mort, et qu'il a été compté parmi les rebelles, que c'est lui qui a porté le péché de beaucoup de gens, et qu'il a intercédé pour les rebelles. » Dans le psaume 40, versets 6 à 9, on a une prophétie messianique. Il y a certains psaumes qui nous parlent, quand on dit une prophétie, les psaumes nous parlent d'une prophétie. Il y a des aspects prophétiques à certains psaumes. Quand on parle d'un psaume messianique, c'est que ça l'annonce quelque chose par rapport à Jésus. Psaume 40, versets 6 à 9. Il dit, « Tu n'as point pris plaisir au sacrifice ni à l'hommage. » C'est comme si Christ parlait à son Père. Puis il dit, « Tu n'as point pris plaisir au sacrifice et à l'hommage. » Qu'est-ce que les Juifs faisaient, de tuer des animaux, tout ça? C'était juste une figure, c'était juste un symbole. Mais il dit, « Tu n'as point pris plaisir au sacrifice ni à l'hommage. Tu m'as creusé des oreilles. Tu ne demandes pas d'holocauste ni le sacrifice de péché. » Alors, j'ai dit, « Voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. » Alors, autrement dit, tu es en train de dire, « Il est écrit de moi, je viens réaliser ce qui est écrit dans le livre, qui a été écrit par les prophètes inspirés par Dieu lui-même. » Et il dit, « Mon Dieu, je mets mon... » Ici, c'est Jésus qui parle. « Mon Dieu, je mets mon plaisir à faire ta volonté. » On est-tu loin de ça, nous autres, un petit peu, là? Mettre notre plaisir à faire la volonté de Dieu en tout temps, sans arrêt, sans manquer. Il dit, « À faire ta volonté et ta loi est au fond de mes entrailles. J'apporte la bonne nouvelle de la justice dans la grande congrégation. Voici, je ne retiens point mes lèvres, ô Éternel, toi, tu le sais. » 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 11. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais prends part aux souffrances pour la bonne nouvelle selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son dessein arrêté. On parle encore de dessein, de décisions qui ont été prises dans l'éternité, de dessein arrêté, et selon la grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps éternels. Avant les temps éternels, mais qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, lequel a rendu la mort impuissante et a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par le moyen de la bonne nouvelle, pour laquelle j'ai été établi prédicateur et envoyé et docteur des nations. Dessein arrêté. Alors, c'est juste pour nous faire prendre conscience que l'œuvre du salut, c'était décision trinitaire. C'est très important qu'on le saisisse. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. « Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non point par des choses corruptibles comme par argent ou par or, mais par le précieux sang de Christ, comme de l'agneau sans défaut et sans tache. » Verset 20, « Déjà ordonné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps pour vous, qui, par lui, croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts et qu'il lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. » On va terminer par un dernier verset. Tite 1, versets 1 et 2. « Paul, esclave de Dieu et envoyé de Jésus-Christ, relativement à la foi des élus de Dieu et à la connaissance de la vérité qui est selon la piété, en espérance de la vie éternelle, que le Dieu qui ne ment point a promise avant les temps éternels. » Okay. Alors, les théologiens, lorsqu'ils parlent de cet aspect-là du salut, de la décision qui a été prise entre les trois personnes de la Trinité de décider qui viendrait accomplir le salut, et à qui ça s'adresserait le salut, qui le recevrait. Les théologiens appellent ça l'alliance de la rédemption. Autrement dit, entre les trois personnes divines, il y a eu une entente. Le rôle de chacun a été établi et chacun acceptait de faire son rôle en son temps. Alors, on appelle ça l'alliance de la rédemption. Alors, selon cet accord-là qui s'est passé en éternité, Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils par la puissance de Dieu le Saint-Esprit afin de racheter son peuple, les élus de tous les temps, et de les sauver de la culpabilité et de la puissance du péché. Dieu a envoyé le Christ pour qu'il mène une vie de parfaite obéissance à la loi et qu'il meure d'une mort pénale, substitutive et sacrificielle en tant que représentant dans l'alliance de tous ceux qui croient en lui. Mais important, on revient un petit peu sur les mots. Pénale, on avait une peine à payer. Si l'être humain qui n'est pas sauvé, la peine qu'il a à payer, là, c'est qu'il soit condamné à aller vivre dans l'éternité, dans l'enfer. C'est un gros, on avait une grosse dette. Alors, quand on dit une mort pénale, donc la punition, il a accepté de la subir à notre place. Substitutive, le mot dit, il s'est substitué à nous pour recevoir le châtiment. Et s'il avait fait uniquement ça, ça aurait été suffisant parce que Dieu le Père demandait, exigeait une parfaite obéissance à sa loi en tout temps sans avoir manqué une seule fois. Donc, à quelque part, la substitution est aussi dans le fait qu'il a accepté d'obéir à la loi toute sa vie sans manquer une seule fois. Et le salut, c'est de recevoir les deux en même temps. On reçoit le fait qu'il a subi notre châtiment à notre place et on reçoit le fait qu'il a accompli ce que Dieu exigeait de nous à notre place encore. C'est pour ça qu'on dit que c'est une œuvre substitutive. Il s'est substitué à nous pour la punition, il s'est substitué à nous pour accomplir les préceptes divins. Alors, les théologiens qui parlent de cet accord éternel, souvent utilisent ce mot-là, l'alliance de la rédemption. Alors, c'est bien important d'essayer de retenir toutes ces choses-là, parce qu'on voit que, dans le fond, la manière dont ça s'est passé, qui interviendrait? Dieu le Père a intervenu par le fait qu'il a choisi les êtres humains qui recevraient le salut. Dieu le Fils a racheté les élus que le Père lui avait donnés. Et Dieu le Saint-Esprit a régénéré et sanctifié les mêmes personnes. Alors, on va regarder maintenant la souveraineté de Dieu. On a regardé en gros l'ensemble des versets qui nous parlent de la souveraineté du Dieu trinitaire dans le salut. On a vu là-dedans qu'il y avait des versets de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. On a vu que ça avait été pris en conseil. On a vu que toutes les circonstances du salut, dans les moindres détails de ce que Christ a fait sur la terre, sur la croix, avaient été déterminées par le Seigneur. On va regarder maintenant la souveraineté de Dieu le Père dans le salut. Alors, si on vous posait la question, quelle était la part de Dieu le Père dans le salut?
L'élection.
L'élection, exactement. L'élection, c'est le fait que c'est Dieu qui a choisi qui recevrait le salut. L'élection, c'est dans sa décision divine, lui, il a décidé de prendre des êtres humains, de les placer en Jésus-Christ et éventuellement dans l'espace et dans le temps, recevrait par le Saint-Esprit qui les régénérerait les bénéfices de ce que Christ a fait sur la terre. Alors, qui a pris l'initiative, selon les Écritures, de sauver les hommes? Dieu le Père prend la première place et prend l'initiative. On l'a dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. En sorte que si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses viennent du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Jésus-Christ. Qui a pris l'initiative? C'est clair dans le verset. Toutes choses viennent du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Jésus-Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, savoir que Christ, que Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec soi, ne leur imputant point leur offense et ayant mis en nous la parole de la rédemption, de la réconciliation. Le mot qu'on utilise, Imputation. Ça, c'est un mot d'une grande, grande importance théologique si on veut comprendre des concepts qui ont un rapport avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Imputation. Ça veut dire mettre sur le compte de quelqu'un. Moi, à un moment donné, la première fois que me souviens, il y a un professeur à l'école biblique essayait de m'expliquer ça, la différence entre imputation et importation. Tout à l'heure, je comprends rien. Jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre que c'était un concept de comptabilité. Si je mets, disons que vous avez un compte, puis je mets 1000 piastres sur votre compte, ça, c'est facile à comprendre, hein? C'est quelqu'un qui met quelque chose sur ton compte. Alors, l'imputation, ça veut dire que le Christ, Dieu accepte que l'œuvre que Christ a fait, il la met sur notre compte. Autrement dit, il la met sur le fait que la dette qu'on avait, c'est Christ qui l'a payée. Et il la met sur notre compte aussi dans le sens du crédit. Ce que Christ a fait sur la terre en menant une vie de parfaite obéissance, ça aussi, il la met sur notre compte. C'est comme si on avait un compte avec Dieu, là. On avait une immense dette, une dette infinie, parce que ceux qui n'iront pas au ciel, ils vont souffrir pour l'éternité. Alors, de comprendre la dette qu'on a envers Dieu le Père, ça dépasse notre capacité d'entendement. Ça dépasse vraiment de beaucoup, là. Parce qu'on a de la misère à comprendre qu'un être humain, à cause des péchés qu'on lui a vus accomplir sur la terre, qui mérite d'être dans le feu pour l'éternité. Vas-y 5 minutes dans le feu, tu vas voir que tu vas trouver que c'est long, pas mal. Mais l'éternité, c'est énorme. Alors, c'est de comprendre que Christ a accepté de payer ta dette à ta place en subissant l'équivalent de ce que toi, tu aurais dû subir en enfer. Il l'a subi à ta place volontairement sur la croix. Et si c'était juste ça, tu ne pourras pas aller au ciel non plus. Parce que Dieu exigeait que chaque individu qui va rentrer, qui va être dans l'éternité, qui va vivre dans sa présence, ait accompli à la perfection la loi de Dieu, le décalogue, les 10 commandements, à la perfection. Moi, j'ai déjà fait une série sur le décalogue. Quand on étudie le décalogue en profondeur, on se rend compte que la sévérité de Dieu, ce qu'il exige de nous, c'est la perfection, rien de moins. Est-ce que quelqu'un est assez brave, vous levez la main, vous dites... Bon, mais si ce n'est pas nous qui l'accomplissons, ce que Dieu exigeait, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et c'est Christ qui le fait. Alors, tout ça, c'est l'imputation. Il met la punition, il l'a pris à ta place, et il donne... la parfaite accomplissement de l'obéissance parfaite, il te le donne aussi, il te met sur ton compte. Dieu regarde ton compte, ah, lui, il ne veut plus rien, parce que Christ a payé sa dette. Mais j'exigeais quand même qu'il soit obéissant toute sa vie à ma loi. Il regarde dans ton compte, ah, Christ l'a mis sur son compte. L'imputation, c'est un concept comptable. À partir du moment que le professeur m'a dit que c'était un concept comptable, c'est comme, ah, là, ça, je comprends ça. Fait que l'imputation, c'est important à comprendre comme concept théologique. Donc, la souveraineté de Dieu le Père dans le salut, Dieu le Père prend d'abord la première place, il prend l'initiative, comme on vient de voir. Dieu le Père a aussi planifié, proposé et réglé l'alliance de rédemption en conseil. On l'a dit un petit peu tantôt, là. Alors, voici Jean 10, verset 18. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit « Personne ne me l'ôte ». Il parle de quoi? Il parle de sa vie. Il dit « Personne ne me l'ôte, mais je la laisse de mon chef ». Autrement dit, il la laisse volontairement. « J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre ». Comment il a démontré son pouvoir de la reprendre? La résurrection. Il dit « C'est le... » La fin du verset est merveilleux. « C'est le commandement que j'ai reçu de mon Père ». On va aller voir un autre verset. Jean 12, verset 48 à 50. Ici, c'est encore Jésus qui parle. « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge. C'est la parole que j'ai prononcée qui le jugera au dernier jour. Parce que je n'ai point parlé de mon chef, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné commandement sur ce que je dois dire et comment je dois parler. » Et ainsi donc, je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi donc, quant aux choses dont je parle, j'en parle comme le Père m'a dit. Autrement dit, l'accomplissement Tout ce que Christ a dit sur la terre, c'était déjà décidé de ce qu'il devait dire. Le Père lui avait commandé de dire. Et tout ce qui est arrivé, il n'y a rien d'hasard là-dedans. Là. Tout est arrivé. Et verset Jean 14, verset 31. Encore une fois, c'est Jésus qui parle. « Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais selon ce que le Père m'a commandé, levez-vous et partons d'ici. » Alors, il y a des événements. Quand on étudie les évangiles en profondeur un peu, on se rend compte que certaines choses que le Christ a fait, il savait que c'était le temps de les faire. Là, c'est parce que tout était décidé, lui savait. Alors, quand ça dit ici, « Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais selon ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. » Alors, le Père avait aussi ordonné au Fils, proposé, prescrit, ordonné au Fils de se charger de prendre soin de ses élus. Hey, on ne peut pas être entre nos meilleures mains. Jean 6, verset 37 à 40, « Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors, parce que je suis descendu du ciel pour faire, non point ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. » La volonté du Père, il est en train de l'accomplir, puis il dit, « Le Père veut que je perde aucun de ceux qu'il m'a donné. » D'après vous autres, il va-tu perdre un de nous autres?
Non.
Si on est vraiment sauvés. Et verset 40, « Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. » Aussi, le Seigneur avait déterminé que Christ pourvoirait la rédemption de ses élus. Alors, dans Ésaïe 49, versets 5 et 6, on l'a lu tantôt, il dit « Afin que tu sois la lumière pour les nations et que tu sois mon salut jusqu'au bout de la terre. » Donc, non seulement il y avait les élus du peuple juif, qui faisaient partie de l'œuvre de rédemption de Christ, mais il y avait les élus de toutes les nations, de toutes les époques et de tous les temps, de tous les pays. Et il y avait aussi l'entente que Christ, lorsqu'il viendrait sur la terre, il était Dieu, Dieu le Fils. Il fallait qu'il s'incarne dans une chair d'homme. Il y avait toutes sortes de raisons. On ne rentrera pas dans les détails de ça ce matin, mais il fallait qu'il le fasse parce que ça faisait partie de la volonté de Dieu. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 10. Il dit, « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » On l'a vu tout à l'heure dans le psaume, hein? Et Christ parlait au Père, puis il disait ces paroles-là exactement. Il dit, tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Et j'ai dit, voici que je viens, est-il écrit à mon sujet dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'as pas pris plaisir choses qui sont offertes selon la loi. Alors il a dit, « Voici que je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il abolit le premier afin d'établir le second. « C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Que Jésus, Dieu le Fils, s'incarne dans une chair d'homme, ça faisait partie du plan de Dieu et c'était nécessaire pour plusieurs raisons. Dans Galates, chapitre 4, et versets 4 et 5, « Mais lorsque fut arrivée la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, venu d'une femme, venu sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui sont sous la loi et que nous reçussions l'adoption. » Ici, la question de l'obéissance active, l'obéissance passive, c'est d'une importance capitale en théologie, de comprendre ces deux concepts-là, parce que si on manque le bateau là on manque le train, on manque le bateau, on manque tout. Là. Alors, l'obéissance qu'on appelle active. Dans Galates, chapitre 3, versets 10 à 13. « Car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, écoutez là, « Maudit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses écrites au livre de la loi pour les pratiquer. » Quand je vous disais que Dieu exigeait une parfaite obéissance, là, il dit que ceux qui ne persévèrent pas dans la parfaite obéissance, Dieu dit « maudit ». Hey, ce n'est pas des petits mots, là. Et après ça, il dit « et quand la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, c'est évident parce que le juste vivra par la foi. » Autrement dit, il est en train de nous dire qu'il n'y a pas aucun être humain qui a jamais été capable d'accomplir la loi à la perfection. Il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais non plus. Il y en a eu juste un, et c'était l'homme-Dieu, Jésus-Christ. Il dit, « Et quand la loi, personne ne fut justifié devant Dieu, c'est évident que le juste vivra par la foi. Or, la loi n'est pas par la foi, mais l'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. » Christ nous racheta de la malédiction de la loi quand il fut fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois. » Ce verset-là, là, Galates 3, 10 à 13, si vous les comprenez, vous venez de comprendre l'Évangile d'une façon extraordinaire, parce que les deux concepts sont là. « Maudit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses de la loi. » Et « Maudit maudit quiconque est pendu au bois. » Qui était pendu au bois? Jésus. Donc, Jésus a maudit Christ, mais pas dans sa personne, dans son aspect de représentant de ceux qu'il représentait. C'est nous qui ont été maudits sur la croix, là. Alors, les deux aspects sont là, et qui expliquent bien le concept de l'obéissance active et de l'obéissance passive. Alors, obéir parfaitement à la loi à la place des élus, ça c'était une exigence divine. Et l'autre, de souffrir la malédiction de la loi à la place des élus, qu'on appelle l'obéissance passive. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, là. Il dit, c'est donc pour le Christ que nous sommes ambassadeurs, comme si Dieu exhortait par notre moyen. C'est pour le Christ que nous supplions, disant, soyez réconciliés avec Dieu. Comme je vous ai dit souvent, 2 Corinthiens 5, 21, c'est l'Évangile en capsule. Tout l'Évangile est là. Car celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait être péché pour nous. Il, le Père, l'a fait être péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Les deux aspects dans le verset 21 sont là. Le fait qu'il n'a pas connu le péché, il l'a fait être péché pour nous, donc l'aspect qui a subi le châtiment, afin que, dans le but, que nous devenions justice de Dieu en lui. Merveilleux. Et Dieu le Père avait demandé aussi au Fils de paître ses brebis. Alors, on lit dans Isaïe 40, verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il rassemblera les petits agneaux par son bras, il les portera dans son sein. Il guidera les brebis qui allaitent. » Alors, je pense qu'on va, pour aujourd'hui, on va avoir fait quand même un bon bout. Et on continuera la semaine prochaine, on verra la souveraineté de Dieu, le Fils, dans le salut. Alors, on va arrêter là aujourd'hui. On va juste demander au Seigneur de bénir qu'on comprenne encore plus ce qu'il vient de nous enseigner. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons en ta sainte présence. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce pour tes innombrables bénédictions que tu déverses sur nous chaque jour, et surtout pour celle de nous avoir libérés de notre dette énorme du péché, que si il avait fallu qu'on la paye, il aurait fallu être dans l'éternité, dans l'enfer. C'est quelque chose d'inimaginable, parce qu'autrement dit, quelque chose d'éternel, l'enfer est éternel, l'éternité n'aurait pas suffi pour que tu puisses pardonner, Seigneur. Et ça nous fait voir un peu la gravité du péché. Seigneur, ouvre nos yeux à la compréhension de la gravité du péché. Ouvre nos yeux aussi au fait que tu es souverain, que c'est toi qui contrôles le salut. Et c'est toi qui en as décrété qui viendrait, qui recevrait les bénéfices de ton salut. Sois béni, ô notre Dieu, parce qu'on sait que notre salut est d'une solidité infinie, parce qu'elle est notre salut est une œuvre divine. Alors, Seigneur, permets qu'on comprenne de mieux en mieux et de plus en plus chaque jour ces choses et qu'on agisse pour t'honorer et t'apporter honneur et gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.